Cette attitude qui consiste à refuser la tradition, c'est en fin de compte le dévoilement, si vous voulez, d'une contradiction spirituelle intérieure et profonde. Tout se passe comme si les enfants d'Aaron apparaissent comme niant l'essentiel, alors qu'au contraire, ils étaient à leur service. Je crois que ça peut effectivement éclairer cet étonnement que nous avons souvent, parfois d'une convergence dans l'essentiel du contenu des valeurs entre humanistes et traditionalistes, alors qu'en réalité, vient dans la forme, et dans, non seulement dans la forme, mais dans l'attitude elle-même, eh bien, les deux propos sont exactement contraires. Cela nous permettra, par ce biais, de revenir donc au texte de l'introduction. Je voulais là poser une question sur la fin du texte. Mitzvah alenu de safer betiat Israël, c'est-à-dire bien que, et même si nous possédions toute la connaissance et toutes les connaissances, c'est pour nous, et vous savez d'ailleurs comment à travers les siècles ça a été réalisé, jusqu'à permettre la perpétuation de notre existence jusqu'à aujourd'hui, c'est pour nous un devoir ou une obligation de se référer aux événements de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire à ce diagnostic qui a été fait en ce temps-là, qu'effectivement, il y a un principe transcendant à l'immanentéisme humain pur et simple qui intervient dans notre histoire. Bien que ce principe soit occulté, il est donc obligation de s'y référer et d'en parler. C'est la forme hébraïque qui, comme d'habitude, nous pose problème. Mitzvah alenu le saper b'siyat Mitzrayim. C'est une obligation pour nous de parler de la sortie d'Égypte. Je voudrais, en conclusion provisoire, vous proposer la traduction suivante. Nous sommes nous-mêmes l'objet de cette mitzvah. Je m'explique. Chaque fois que nous faisons une action en tant que mitzvah, c'est-à-dire en tant que nous reconnaissons que le contenu de valeur qui y est exprimé ou témoigné nous est demandé comme, dans la catégorie de l'obligation, comme devant répondre à un devoir par rapport au Créateur, mitzvah, alors nous disons une formule liturgique qui définit la mitzvah qui nous est demandée. Par exemple, lorsque nous habillons du talet, nous disons « al mitzvah tzitzit ». Mitzvah, allez-nous les saper des tiers d'Israël, mais alors allez-nous renvoie en hébreu à nous-mêmes, à nous, Israël, à nous, le peuple juif. C'est une mitzvah qui nous concerne, c'est la mitzvah faite sur nous, sur notre existence, qui consiste à parler de la sortie d'Égypte. En parlant de la sortie d'Égypte, alors, il y a là une mitzvah qui éclaire qui nous sommes. Nous sommes nous-mêmes l'objet de cette mitzvah. Enfin, pour quitter le niveau de l'exégèse directe, enfin, mettre en évidence enfin, l'idée de cette interprétation, cela signifie bien que si nous nous coupons de cette mémoire que nous avons eue à travers les siècles et qui commence historiquement à la signification des événements de la sortie d'Égypte, alors c'est notre identité elle-même qui se trouve être mise en question. Je veux dire que, d'un côté, une attitude traditionnaliste nous permet, en nous rattachant à une mémoire antérieure, de préserver notre identité. De l'autre côté, une attitude humaniste rebelle précisément à ce cas exceptionnel que représente l'identité d'Israël, risquerait de la dissoudre et de la renvoyer, soit à une interprétation de type philosophique qui ramènerait l'identité juive au niveau de l'identité des autres sociétés, soit à une interprétation de type mystique qui déferait littéralement notre être collectif pour renvoyer à la vie intérieure de chaque individu, à l'échelle individuelle, la perpétuation de ce qu'on nommerait l'identité d'Israël. Enfin, voilà les premières analyses que je voulais vous proposer, et vous donner maintenant la parole pour que j'essaye de, tout à l'heure, de tenter de répondre aux questions qui se seraient posées à vous. Je vous écoute.
Comment
est-ce que
je suis
de
là une importance dans les courants de pensée de tradition ou
écoutez, je vous demande de répéter la question.
Dans la mesure où ça a une importance dans ce qui se passe actuellement et dans la révérence que vous en faites, où se situe l'islam comme courant de pensée?
L'islam, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Comment classez-vous les bastions parmi les femmes dont vous avez parlé?
Écoutez, alors là, je peux vous répondre directement parce qu'il suffit d'un mot, ce sont des humanistes, bien évidemment. On m'a posé la question de savoir comment classer les masculines. Pour ceux qui savent qui sont les masculines, enfin, il est très facile de répondre, ce sont effectivement des humanistes juifs. C'est-à-dire que ce phénomène qui s'était passé en Grèce, à l'échelle de la culture générale et universelle, je vais essayer tenter de vous redécrire de nouveau, s'est passé dans l'histoire juive, à la fin du XVIIIe siècle à peu près, surtout dans les communautés européennes, et en particulier dans les communautés russes, et est apparu le mouvement qui a été nommé le mouvement de la Haskala, l'intelligentsia, si on peut traduire comme cela, les masculines étant les membres de ce mouvement qui se nomme la Haskala. Et...
Il y a une phrase qui dit que
pour les masculines, vous les éprouvez. Oui. Alors, je m'excuse, c'était une toute autre question. La question qui m'a été posée fait allusion au masculine, dont parle le livre de Daniel, vers masculine, yaziru, kezoar, alakia. Et les masculines dont parle le livre de Daniel, ce sont les hommes qui seront capables de comprendre la signification des événements malgré les apparences. Masculine. Ce sont qui sont capables de comprendre malgré les apparences. C'est historiquement les masculines de la Haskala qui ont repris ce terme, alors que les masculines de la Haskala étaient effectivement des humanistes. Enfin, le phénomène est exactement celui-là. En Grèce, il est arrivé un temps où les hommes de culture n'ont plus compris les textes de leur sagesse antérieure, que nous appelons aujourd'hui la mythologie. Ils n'ont plus compris ces textes, incapables d'identifier le contenu de sagesse qui circulait, enfin qui était présenté, et par conséquent ceci a mené à nier le témoignage des anciens qu'il y avait révélation du dehors de la conscience humaine. Ce phénomène de déception quant à la sagesse antérieure ne s'est pas passé en Israël. En Israël, il y a passage de l'hébraïsme au judaïsme par fidélité grâce à la connaissance. On continue à comprendre ce que les Hébreux avaient dit, c'est cela un juif, c'est un homme qui continue à comprendre ce que les Hébreux avaient dit. Mais il peut arriver à l'échelle individuelle que ce phénomène de déception se produise, et il s'est notamment passé en Europe à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la sortie des ghettos dans les communautés ashkénazes, surtout celles de Russie, et c'est ce mouvement qu'on a appelé la Haskala. Et je crois que ce qui est important dans l'éclairage de notre analyse, c'est ce fait que l'histoire juive est finalement rebelle à une explication humaniste, qu'elle est corollairement le témoin de la véracité de l'enseignement traditionnel, et ce qui me frappe, je vous le répète encore, ce qui me frappe, c'est cette convergence de toutes les, comment dire, de toutes les problématiques humanistes par rapport à Israël contemporain. Enfin, comme vous le devinez, je suis encore tout imprégné de l'atmosphère du colloque de la semaine dernière à Jérusalem, où nous avions à tenter d'élucider, de décrire en tout cas, ou à tout le moins, l'identité d'Israël dans la conscience chrétienne, comment la conscience chrétienne se la représente, comment la conscience islamique se la représente, et comment la conscience marxiste se la représente. Enfin, j'arriverai tout à l'heure à la question sur l'islam, mais je voulais entendre vous.
Oui. Ce que vous avez dit, l'universalité de la révélation, évidemment, c'est fondé sur ce que le commentaire qui dit que Moïse n'a révélé en son vivant, mais j'avais vu il y a très longtemps, dans un livre de Benoît Blanc, que la révélation était au contraire spécialisée au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, qui était universelle au temps de Noé, et qu'elle était particulière au peuple juif au temps de Noé.
Bien, je reprends le temps, oui. Bien.
Et je voudrais vous poser la même question qui a été posée au sujet de l'islam, je voudrais la poser pour le christianisme, c'est-à-dire de comment la théologie islamique par rapport aux trois catégories, l'humanisme,
Qu'est-ce qu'on va faire?
D'autre part, pour les deuxièmes questions à vous demander, vous avez parlé justement de l'universalité de la révélation par la Torah. Comment pouvez-vous expliquer, concilier la mythologie telle qu'elle était, telle qu'elle était connue par les Grecs, dans la mythologie grecque, avec la révélation qui a été transmise par le président à l'Europe.
Oui.
Je voulais vous demander, en fait, que la
apparaît à partir du 18e siècle, événement justement apparaît vers
le de la communauté. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Au 8e siècle, avant notre ère.
Oui, au 8e siècle.
Avec quel nom, par exemple? C'est encore le temps mythique. Enfin, je reviens. Oui. Oui, il y a d'autres questions. Bien, finalement, ces questions se distribuent en deux ensembles. Comment identifier l'islam et la chrétienté dans la problématique que j'essaie de décrire? Et d'autre part, comment comprendre la différence ou la convergence entre l'univers de la mythologie et l'univers de la Torah? Bien, effectivement. Si vous voulez, officiellement ou de manière classique, tant l'islam que la chrétienté se présentent comme se rattachant à une révélation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il faudrait peut-être introduire cela par d'autres définitions, mais enfin essayons quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la mesure où la révélation à laquelle l'univers chrétien et l'univers musulman se rattachent, c'est la révélation à Israël, et dans la mesure où les fondateurs, tant du christianisme que de l'islam, dénie à Israël, qui est d'autre part reconnu comme étant le principe de la révélation, le droit, non seulement le droit, mais l'existence en tant que porteur de cette révélation, alors, pour notre problème en tout cas, il y a une contradiction de fond dans l'attitude chrétienne et dans l'attitude musulmane. Officiellement, et encore une fois au bénéfice de la sincérité de leur ferveur individuelle quant à leur propre foi, officiellement, il s'agit d'un phénomène de tradition, mais en réalité, par rapport à Israël, il s'agit d'un phénomène d'humanisme. C'est-à-dire par rapport à Israël, qui est cependant reconnu comme détenant les clés de la révélation et chrétienne et musulmane, on se conduit comme si on s'était approprié les principes de cette tradition, les principes de cette révélation, c'est-à-dire par rapport à Israël, c'est un phénomène d'athéisme. Je veux dire, en d'autres termes, excusez-moi du paradoxe, mais je crois que nous sommes dans le fond du problème, par rapport à Israël, les chrétiens sont déicides, et les musulmans aussi, dans la mesure où c'est Israël qui est leur Dieu, dans la mesure où c'est Israël qui a été le médiateur de la révélation pour eux. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, n'est-ce pas ? Et j'arrive à... si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, mais j'arrive au deuxième point. Et je veux dire, en tout cas, ça ne signifie pas qu'un chrétien ne soit pas croyant ou qu'un musulman ne soit pas croyant. Je ne veux pas dire seulement qu'il croit l'être, je pense qu'il l'est réellement, hein, mais dans la mesure où n'importe quel hérétique est aussi croyant. C'est-à-dire, c'est glisser subrepticement la problématique humaniste qui vient des Grecs, tant dans l'islam que dans la chrétienté. Je disais un jour qu'il me semble personnellement que saint Paul est beaucoup plus musulman dans le principe que chrétien. Saint Paul apparaît dans la définition que l'islam se donne de lui-même, apparaîtrait comme le premier théologien musulman. En tout cas, il est bien évident que la problématique grecque a envahi la conscience arabe d'un côté, dans la mesure où l'islam procède des Arabes, et la conscience chrétienne de l'autre, du point de vue de l'humanisme. Vous savez, c'est exactement cette attitude, ton Dieu mais pas toi, ton livre mais pas toi. C'est effectivement l'attitude tant des Grecs, pardon, des chrétiens que des musulmans par rapport à Israël. Tout ceci au bénéfice de la sincérité individuelle des personnes. Je ne désigne que les doctrines, bien évidemment. Je connais énormément de chrétiens et aussi de musulmans qui reconnaissent qu'effectivement il n'y a de fondement à la révélation que dans l'identité d'Israël, mais qui le reconnaissent de façon privée et qui déplorent que leur orthodoxie ne le reconnaisse. Dans les 70 langues en même temps, c'est de façon la plus claire possible dire que lorsque révélation il y a, Israël, mais qui ne devient pas Israël des Juifs, il devient Israël en rivalité, l'Israël chrétien. Mais plus, ça c'est le premier point, je crois qu'il me semble assez important, ça c'est clair. Deuxième point, au point de vue typologique, qui est le frère de Jacob qui lui dispute son nom d'Israël, c'est Ésaü. Ça veut dire que chaque fois qu'apparaît ce phénomène, qui n'est pas le phénomène Ismaël, Ismaël ne se prétend pas être Israël, mais il ne veut pas qu'Israël existe. C'est un autre problème. Mais il ne se prétend pas être Israël. Il reconnaît que c'est les Juifs qui sont Israël, mais il est contre. Tandis que le chrétien nous dispute l'identité d'Israël. De moins en moins. Enfin, de moins en moins à voix haute. Mais je ne crois pas que... En tout cas, voilà, si nous nous posons la question, qui est ce frère de Jacob qui lui dispute son nom d'Israël, c'est Ésaü. Par conséquent, chaque fois que typologiquement apparaît le phénomène de conscience chrétienne, avec quelques nuances entre catholiques, protestants et orthodoxes, mais sauf il y a beaucoup de maisons dans la maison de leur père, mais c'est la même. Beaucoup de chance, mais c'est la même attitude, fondamentalement. Alors, c'est Ésaü. Ça veut dire, je ne veux pas dire tellement que Ésaü, c'est le chrétien, c'est Ésaü, typologiquement. Bien, ensuite, pour la deuxième question, qui est effectivement importante, nous reprenons ça, s'il vous plaît, dans le répondeur.
Vous dites que la génération privilégiée, c'est parce qu'il y avait Horma et Bina qu'ils ont pu avoir la Torah.
Oui.
Et dans le Maharal dit que en fait, ils étaient obligés d'aller rechercher une deuxième Torah, c'est parce qu'il n'y avait pas Horma, il n'y avait que Bina.
Oui.
De la pensée que la deuxième permet
peut-être d'accéder à la... Oui. Alors écoutez, je vais aussi vous répondre très directement, c'est aussi un peu périphérique. Si je comprends bien ce à quoi vous faites allusion, lorsque Dieu a chargé Moïse de mettre sur pied l'encadrement d'Israël, la hiérarchie dans la société d'Israël, il lui a demandé dans un premier verset des hommes capables de Horma, Bina et Dara. Lorsqu'ensuite nous voyons le récit de ce qui s'est passé, on trouve qu'il n'y a que des hommes capables de Bina et de Dara et pas Hachamim. Mais finalement, c'est récupéré avec le Bnei Issachar, comme vous le savez, sous Bnei Issachar de Raïvina Laïkin, et c'est-à-dire on ne trouve ce dor, ce qui a manqué à ce dor à Midbar, on le retrouve distribué dans la fonction et la finalité de la tribu d'Issachar, Bnei Issachar de Raïvina Laïkin. Mais en fait, voyez-vous que dans le projet, Israël de la sortie d'Égypte est identifié comme étant capable de Chokhma, de Bina et de Da'at en principe. Il s'est avéré qu'ils étaient plus Anche Dea qu'Anche Chokhma, mais c'est à la fin des temps, avec Ibn Issachar, que cette Mida se récupérera. Voilà dans quel sens j'ai voulu employer ce terme, surtout pour l'exposé d'aujourd'hui. Je crois que c'était le terme de Dea qui était important. Rappelez-vous de l'analyse de jeudi soir. Chokhma, c'est lorsqu'on apprend de quelqu'un, quand quelqu'un explique. Bina, c'est quand on sait lire un livre. C'est beaucoup plus de choses que ça aussi, mais dans notre problème. Da'at, c'est quand on est capable d'identifier, de diagnostiquer ce qu'on a entendu ou ce que l'on a lu, et ce que l'on a entendu est lu. Et cela, c'était le privilège de la sortie d'Égypte, de la génération de la sortie d'Égypte. Parce qu'indépendamment des explications que Moïse donne, du livre qu'ils vont recevoir où les choses sont consignées, ils avaient assisté, ils avaient identifié. C'est le problème du témoin. Et c'est très difficile d'être témoin. Les choses se passent. Certains voient et entendent, d'autres ne voient pas. Ils n'entendent pas. Vous comprenez, c'est un problème classique de l'école de journalisme. Un événement se passe, vous lisez tous les journaux du matin ou du soir, peu importe, puisqu'on lit les journaux comme on fait la prière, le soir et le matin. Et, non, comme je disais, non, il y a aussi les journaux de Minha. Et alors, en tout cas, et on voit des témoignages complètement différents du même événement. Ça me rappelle un chidouche au sujet de Shoftim. Fais-moi le verset. Velotikar Shohad, qui a Shohad, Aver, Ene, Haramim, Lissalev, Libre, Tzadiki. La Torah dit au juge qu'il ne faut pas prendre de Shohad. Shohad, c'est un pot de vin. Des épices, comme disait Molière. C'est ça, des plaideurs. Parce que, dit la Torah, le pot de vin, il y a Aver, Ene, Haramim, aveugle les yeux des sages, il s'allève libre tzadikim et falsifie, s'allève, c'est falsifié, les paroles des tzadikim, des justes. Habituellement, on attribue cette exhortation au juge. Mais quand on sait ce que c'est qu'un juge en Israël, Alors on se demande si vraiment il y avait une telle consigne. Alors, je crois, enfin, le ridouche que je vous cite, c'est que ça concernait les témoins. Parce que le témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu. Vous voyez, les yeux des sages et les paroles des justes. Un témoin, de vérité, c'est celui qui est capable de dire justement ce qu'il a vu, sagement. Voilà. Et alors, si on apporte un pot de vin au tribunal, eh bien, les témoins deviennent des faux témoins. Ça crampe, vous comprenez? Et alors, le remède va très loin. Et aver, aine, hachamim, il s'allève d'ibré sadiki, les yeux et les paroles. Les yeux, aine, commencent par aïn, les paroles, dvarim, commencent par dalet, ça fait aine. Le témoin, c'est celui qui peut dire ce qu'il a vu. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet général? Alors.
Oui.
J'ai mal assimilé la notion de Kénéred.
Kénéred
Abarani. J'ai mal assimilé, je m'excuse, c'est trop personnel, j'ai mal compris. Vous pouvez revenir très
brièvement. Oui, très, très rapidement. C'était en passant, ça, j'avais une indication de Ridouz. C'est que lorsque la Torah dit Kénéged, la Gada dit Kénéged, Abarani, Libra Torah. Ça veut dire c'est par rapport à quatre sortes d'enfants que la Torah avait parlé lorsqu'elle avait dit lorsque ton enfant t'interrogera. Mais le terme qui est employé est un terme qui implique l'éventualité d'une agressivité, d'une, comment peut-on dire ça, d'une contestation, d'un conflit, d'un conflit, d'une opposition. Neged, c'est être vis-à-vis mais contre. Hein? Moi je vous ai cité pour éclairer cela le Ezer Kenegdo de la femme. Effectivement, j'ai remarqué, je vais vous donner enfin des exemples très personnels parce que c'est le plus vivant pour moi. L'année dernière, comme vous le savez, pas cette année, mais l'année dernière, j'ai dirigé à Natania l'école de préparation au baccalauréat français, des classes terminales. Et bien entendu, comme vous le savez, c'est un programme très chargé, surtout que, enfin, dans les conditions dans lesquelles il a fallu mettre sur pied cette préparation au baccalauréat, et nous laisser peu de temps pour faire aussi le chinour général, enfin l'éducation juive en général, et en particulier la klita, c'est-à-dire l'intégration à la mentalité israélienne. Et puis, il faut dire que ceux qui payaient pour ça, je ne dirai pas qui, mais vous devinez, n'étaient pas tellement intéressés à ça, mais surtout que les enfants passent leur bachot pour pouvoir passer à l'université. On peut le comprendre, mais enfin, actuellement, quand même, on se rend compte là-bas qu'il faut faire beaucoup d'éducation juive, parce que les fondateurs de l'État d'Israël étaient de juifs, d'éducation juive. Ils ne sont pas aperçus entre-temps que les générations qui arrivaient après étaient déjudaïsées. Comment les juifs, les juifs russes, polonais, allemands, même allemands, qui étaient avant 1939, etc., sont arrivés en Israël avec une éducation juive de base. Ensuite, ils se sont distribués dans toutes les parties, les idéologies, si vous voulez, mais il y avait quand même Yardout, il y avait quand même Zehout Yehoudi. Et puis, c'est très lent là-bas à se rendre compte qu'un juif n'est pas forcément juif de culture lorsqu'il arrive de la diaspora. Bon, et alors, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en général, là, j'ai eu deux ou trois Zouaves qui sont devenus matzpen dans l'école, ils avaient apporté ça à deux de francs, d'ailleurs. Non, c'est vrai, on ne se rend pas compte que le matzpen en Israël, c'est rien du tout. Là, c'est un de ces dvarim betelim qui est dans le halom. Et ça trompe personne là-bas. Le matzpen est grave ici. Là, c'est un phénomène diaspora, c'est pas un phénomène israélien vraiment. Vous comprenez ça? Et là, j'ai remarqué une chose. Vous savez que j'ai une longue expérience d'éducateur. Ne prenez pas du tout ça comme. Je ne veux pas dire que je sois un éducateur expérimenté, mais enfin, je m'en suis occupé pendant très longtemps. Ne prenez pas du tout ça comme une espèce de cliché de diagnostic. Mais enfin, il n'y a pas d'exception. Ceux qui sont contre l'identité d'Israël, ce sont des gens qui sont premièrement contre l'identité individuelle de leur père. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des névroses familiales. Ça commence par être une névrose familiale. À propos de quoi, je vous dis
ça?
Oui, le conflit est vraiment entre les banim et les abot. Comme dit le verset de Malachi, « Les shiv et abot al banim et les banim al abotam »« Ben abot veiketi et taaret heret » de peur que je ne vienne frapper la terre d'interdit. Donc on peut dire que Eretz, là, c'est Eretz Israël. Je veux dire, vous voyez, ce à quoi je pense maintenant, ce que je vous dis souvent, on ne peut pas ne pas être inquiet lorsqu'on a déjà vécu les événements de la génération précédente, surtout éclairés par notre histoire de 3000 ans. Ne pas être inquiet devant l'hésitation des années que nous vivons, des mois, des semaines que nous vivons, nous risquons purement et simplement, en diaspora, d'être pris au piège, d'être bouclés. Écoutez, on n'aura pas fini de réfléchir sur le sujet qui préoccupe l'Assemblée concernant les Juifs de Russie. Cette chose absolument inouïe, sans aucune explication, que bien que ce soit un pays, c'est indéniable, enfin une civilisation, une culture qui a inscrit dans sa constitution et de façon très lucide l'interdiction de l'antisémitisme, tout ce que vous voudrez, hein, de cette chose absolument énorme que cette idéologie soviétique, marxiste en général, qui est un des courants d'espérance, qui est pour des centaines de millions de consciences, qui porte vraiment une des espérances humaines, elle n'est pas exactement la nôtre, c'est encore une de ces approximations dont vous parlez si vous voulez, mais qu'on arrive à une contradiction flagrante entre les principes et les faits, et que les Juifs sont bouclés en Russie et dans notre pays, exactement comme les Hébreux étaient bouclés en Égypte. Et ça risque d'arriver en France. Nous ne serions pas aussi catégoriques aujourd'hui qu'il y a 3 ans, ou qu'il y a 4 ans, ou qu'il y a 10 ans, mais enfin, je crois que nous vivons dans une espèce de rêve qui risque de se transformer en cauchemar. Que Dieu fasse que ça n'arrive pas, et je le souhaite. Personne n'a envie d'être prophète de malheur, si vous voulez. Peut-être ça n'arrivera pas, et qu'à Dieu ne plaise que ça arrive, mais enfin, la problématique est là. La problématique est là, et il arrive très souvent que ce soit des affaires familiales, en fait, je veux dire, dans ce que j'ai décrit, soit des conflits d'identité pour psychiatres qui finalement retentissent sur l'option à prendre, de quelle manière selon nos juifs, surtout je parle au niveau des enfants, et dans une génération aussi exceptionnelle que la nôtre, pour qui il est urgent de choisir, pour qui, une génération pour qui il faut choisir, et choisir vite. Bien, alors, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Et je dois vous dire très, très directement que l'agent juif s'est aperçu de cela et qu'elle a attaché un psychiatre au service de recrutement des étudiants. Bon, oui.
Est-ce que cette approximation marxiste, elle porte un nom dans la tradition juive, comme l'approximation chrétienne porte un nom?
Oui, moins, si vous voulez, moins direct, mais c'est aussi Ésaü. C'est une manière d'être Ésaü. Le chrétien, c'est un Ésaü déjà sur le chemin du demi-repentir. Tandis que le marxiste, c'est un Ésaü Ésaü. Ésaü mamache. Ésaü rouge. Très rouge. Ouais. L'autre aussi, l'Ésaü chrétien, a aussi la force cardinaliste. Mais c'est sangréo, les Espagnols. Mais c'est Ésaü tout ça. Vous savez, il y a 4 personnages dans ce récit Jacob-Ésaü. Il y a un Jacob qui a la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. Il y a un Ésaü qui a les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Il y a un Ésaü qui a les mains d'Ésaü et la voix d'Ésaü. Et il y a un Jacob qui a la voix de Jacob et les mains de Jacob, c'est celui-là, Israël. Mais il y a 4 personnages là-dedans. Bon.
Il y a pas une différence enfin, fondamentale, mais qui peut bien rejoindre ce que vous venez de dire, entre l'islam d'une part et puis le christianisme et le marxisme d'autre part, c'est que le fondateur de l'islam n'était pas juif, les fondateurs du christianisme et du marxisme sont des juifs.
Très très important.
Effectivement.
Ça fait.
Ça peut aller dans votre sens, oui, parce que Ésaü, c'est plus près de Jacob.
C'est exact. C'est exact.
Ismaël.
Merci.
Ismaël, il est pas près de Jacob aussi.
Pardon ?
Ismaël, aussi.
Moins qu'Ésaü. Que je veux dire, je suis moi-même un juif originaire des pays d'islam.
C'est antisémite, c'est pas possible.
Antisémite ? Non, 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 oui. Je voudrais répondre. Écoutez, je vais parler de vous. Écoutez, nous allons un peu nous transformer en officier d'état civil, Mihou, Abraham, Israël, Yaakov, Ismaël, mais je voudrais quand même éclairer cela. C'est ce que j'avais commencé à vous dire quand vous avez réagi, que je suis moi-même un juif originaire des pays d'islam. Pour ne pas vous cacher, je suis originaire d'Algérie, pour ne rien vous cacher. Et vous n'allez pas me dire vous aussi, on va croire qu'on est entre nous. Et Quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé avec cette conviction que le musulman, en tout cas, l'arabe, Vous savez, il faut faire attention. Hein. Musulmans et arabes, ça ne coïncide pas forcément. L'islam, c'est une chose. Le monde arabe, c'est une autre. Si vous voulez, on pourra en parler. Ismaël n'était pas arabe. Ismaël était fils d'Abraham. Et les théologiens musulmans savent que Ismaël est fils d'Abraham et non pas du tout arabe. Il a épousé la fille d'un cheikh, et c'est avec cette tribu qu'Ismaël a commencé la tradition ismaélite arabe. Mais lui, Ismaël, est considéré par les théologiens musulmans comme un hébreu fils d'hébreu, et pas du tout, les théologiens qui savent de quoi ils parlent en tout cas, et pas du tout comme un arabe. C'était la tribu des Koréchis. J'ai eu à la fraternité d'Abraham, il y a deux ans, il y a trois ans d'ailleurs, c'est au moment de la guerre de toujours. J'ai eu des discussions avec des théologiens musulmans, dont un arabe authentique. Il y avait un iranien, il y avait un indonésien, mais il y avait aussi un arabe. Et j'étais vraiment étonné, satisfait, surpris et positivement d'entendre, sans qu'aucune mise au point n'avait été faite, le théologien musulman dire ça très clairement, très, très franchement. Ils le savent. C'est par filiation, c'est par la belle-fille que les Arabes se rattachent à Abraham, mais pas du tout par Ismaël. Ismaël n'est que le beau-fils. La tribu, c'est la tribu du cheikh, de son beau-père, l'autre. Bon. Eh bien, en tout cas, je vous disais donc, je suis arrivé d'Europe avec cette conviction que, quoi qu'il en soit, l'arabe ou le musulman est beaucoup plus proche de nous que le chrétien. Et que la relation avec Ismaël était beaucoup plus proche que la relation avec Reza. Je dois dire que c'est une des rares, pas dire altercation, mais enfin, discussion que j'ai eu avec mon maître, quand je suis arrivé en Europe, il m'a dit, tu sais pas lire. Comment je sais pas lire? Nous avons vécu chez, dans l'islam, nous avons vécu chez le musulman, nous savons, nous sentons que nous sommes beaucoup plus proches de leur mentalité, quelquefois, si vous voulez, des problèmes humains, alors que la manière dont Esaü s'est conduit avec Jacob, la manière dont Esaü s'est conduit avec Judaïm Ashkenazi, c'est épouvantable. C'est la même chose, mais à un niveau tellement gigantesquement différent que tu sais pas lire. Et il m'a expliqué finalement, premièrement, une chose que je ne voyais pas, bien que de 10 ans, Esaü et Jacob sont frères de la même mère, de la même matrice. Voilà. Tandis que Ismaël et Isaac, donc Ismaël n'est que l'oncle, et encore un oncle bien lointain, d'une autre mère, avec Jacob. Et ça veut dire que le problème de Jacob et Esaü, eh bien, peut-être une trace de ça dans Romulus et Rémus, c'est possible. Enfin, mais eux, ils prennent du lait de louve. Et, alors, le problème, c'est le problème de deux frères qui sont devenus ennemis, très loin l'un de l'autre, si vous voulez, en fin de compte, dans les résultats, mais du point de vue de l'approximation, les plus proches, du point de vue de la vérité, si vous voulez, c'est l'approximation qui est la plus proche de la vérité, qui est la plus erreur. Quand une approximation de vérité est lointaine, alors le contraste est tel qu'il n'y a pas de danger, vous comprenez? Mais quand la proximité est la plus proche, alors l'approximation est plus néfaste. C'est le thème du Midrash qui dit que lorsque le Yetzer Hara, lorsque le Satan, si vous voulez, vient avec la figure d'un gauchiste, enfin d'un contestataire, devant un gangster, c'est clair, on sait à qui on a affaire. Lorsque le Satan vient avec la figure d'un Tamil Haram, alors là, c'est un Satan très dangereux. Vous comprenez des allusions que je ne veux pas faire. Bien. Alors, maintenant, en tout cas, ce qui m'a expliqué, qui m'a beaucoup frappé, c'est ceci. C'est qu'en fin de compte, l'antisémitisme des Aïus, pour terrible qu'il ait été, je ne crois pas qu'on puisse dépasser ce sommet-là, hein, a accompagné la dispersion des Juifs. L'antisémitisme chrétien, enfin l'antisémitisme des Aïus, a accompagné la dispersion des Juifs. Mais l'antisémitisme des musulmans accompagne le retour, et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave comme projet d'anéantissement. Beaucoup plus grave. Bien, alors écoutez, s'il y a encore d'autres questions, et ensuite, oui, bien sûr.
Au début, vous aviez dit que le monde actuel était un monde à engendrer pour le fils de l'homme. Bon, dans le judaïsme, il y a une partie prophétique, une partie, juridique, des mitzvot. Alors, est-ce que cette partie, elle sera applicable pour le fils de l'homme? Est-ce qu'elle est au pouvoir?
Bien, alors, vous savez, c'est une question importante que vous posez. Je ne sais pas si j'ai le droit de tenter de vous répondre sur un pied, alors je vais me mettre sur les deux. Mais, voilà. Ce qu'on appelle le mitzvot, c'est effectivement la charte, le mode d'emploi, si vous voulez, de l'engendrement du fils de l'homme. Alors, à partir du moment où le fils de l'homme sera engendré, est-ce que, si vous voulez, le mode d'emploi antérieur aura encore à être reconduit? Alors là, lorsque j'ai posé la question à mes maîtres, ils m'ont répondu. que, de toute façon, le Mashiach a toute prérogative pour décider. Quand ça sera le temps, le Mashiach nous dira. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut dire que ce sera la même Torah, mais dans un cycle existentiel différent, et par conséquent, nous verrons bien à ce moment-là, vous comprenez. Mais en tout cas, effectivement, le lien entre ce que vous avez appelé la partie juridique et la partie prophétique, est qu'on oublie toujours que les prophètes, c'était des hommes de la loi. Les prophètes, c'était des Bnei Torah. Malachi, puisque j'ai cité Malachi, termine en disant « Zichru Torah Moshe Avdi », la dernière parole de la prophétie. « Zichru Torah Moshe Avdi ». Je me souviens une fois d'une stupéfaction d'un exégète de l'université en Israël, parce que j'éclairais un verset de l'Isaïe par une citation d'un verset de Moïse, complètement stupéfait à l'idée que quelqu'un pouvait penser qu'Isaïe avait dit Moïse. Vous rendez compte d'une invraisemblance. Et voilà sur ce point. Pardon ? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, recommencez s'il vous plaît.
Est-ce que le sionisme mondial, ce que l'on appelle le sionisme mondial, il est politique, il prend des positions ?
Écoutez, moi le sionisme mondial, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Oui. J'ai pas entendu question.
Elle non plus.
Ce dont parlent les journaux en parlant en sionisme. Je me trouvais le mois dernier à Lyon. Et il y avait une conférence des dirigeants de la revue Éléments. Vous savez ce que c'est, ça? Bon. Et alors, bon, enfin, c'est encore un de ces cas dont je parlais tout à l'heure. Il faut voir ce qu'il y a entre les enfants juifs et les pères juifs pour savoir ce qu'il y a entre ces mouvements et l'identité Israël. Ça passe par là, toujours. Enfin, quoi qu'il en soit, un de ces gentilshommes avait cité le fait qu'il se trouvait en Amérique latine, je crois à Cuba d'ailleurs, un rassemblement politique de la gauche, et qu'il y avait, alors c'était Haïti, où est le président Duvalier ? C'est Haïti ? Oui. Alors il y avait donc un gauchiste de Haïti qui avait traité, je sais pas, Duvalier, qui le traitait de l'impérialiste sioniste. Alors il a fallu, paraît-il, 2 heures pour expliquer que c'était pas synonyme. Alors, un sioniste, c'est quelqu'un qui pense tout simplement que le temps du retour est venu et que l'identité juive va devenir israélienne. C'est ça le sionisme. Alors, le sionisme mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble de juifs qui parlent le monde de façon plus ou moins cohérente. En général, comme dans toutes les affaires juives, c'est la pagaille, mais quand même de façon plus ou moins cohérente, essayent de relier leurs efforts pour réaliser cela bêtement, pas choute. Le fait que, par motivation plus ou moins différente, mais sauf convergente, un certain nombre de juifs, depuis une centaine d'années, pensent que c'est le temps de la fin de la galoute et que être juif doit devenir être israélien. Et alors, écoutez, j'embraye sur l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Quelqu'un m'a demandé, M. Brunschick m'a demandé que devient l'idée de la diaspora en tant que punition. Mais je parlerai d'abord de la transition. Et qu'est-ce que serait, à partir de maintenant, si vraiment l'identité juive, c'est l'identité israélienne, alors qu'est-ce que serait que les juifs de la diaspora? Eh bien, ce serait la diaspora de cette identité israélienne. Mais comprenez bien ce qui a changé. Jusqu'à notre temps, nous nous considérions comme la diaspora de l'ancien État juif de Judée détruit par Rome. Et cette diaspora de l'ancien État juif de Judée détruit par Rome, qui a persévéré dans son être à travers toutes les péripéties que vous savez, avait, depuis Herzl, depuis avant Herzl quand même, c'est depuis le Raval Kalaï, c'est-à-dire que le programme sioniste a été mis en forme, on avait en tout cas, depuis ce temps-là, un petit appendice qui était les mouvements sionistes. Cet appendice, le comité de la diaspora le considérait comme un petit peu turbulent, un petit peu dangereux, mais enfin déjà on a commencé à répartir les troncs du KKL, on avait commencé à avoir une certaine sentimentalité pour ces uluberlus, ce Bnei Hachamim, c'était le Hacham qui avait décidé de faire ce qu'il avait à faire. Et vous comprenez, tout ça a beaucoup marché, mais pendant 100 ans, on a considéré cet appendice sioniste comme une espèce de judaïsme pour gens malheureux qui n'avaient pas la chance que nous avons eue d'être citoyens français d'après l'émancipation ou citoyens des pays de l'émancipation. Et puis, subitement, ça s'est préparé pour chacun à sa manière. Pour chacun à sa manière, et vous devinez que ma motivation a été essentiellement religieuse. Mais enfin, subitement, On s'est rendu compte au moment de la guerre de six jours, et dans l'angoisse qui a pris tout le monde, et dans le soulagement de voir que c'était arrivé, le signe massif, c'est bien sûr la victoire, et le fait que pas un soulier arabe de soldat ne s'est posé de l'autre côté des frontières. C'est une chose extraordinaire, ils n'ont pas traversé la frontière nulle part, même pas un pied. Et il y avait ça, bien sûr, ce qui est énorme, mais surtout Jérusalem. Et je crois que ça, c'est le signe focal le plus évident. Et alors, il s'est produit un phénomène de changement d'identité dans la diaspora. Alors, dans la mesure où un juif de la diaspora, c'est ça, c'est-à-dire qu'il se considère comme étant la diaspora de l'État d'Israël, le Vakasha seulement, c'est une position très difficile. Parce que, lorsque les Français vous disent « Ah, et alors, double appartenance ?», si vous les répondez, cartésiennement, ils ont raison. Ouais, je schématise beaucoup, parce qu'ils n'ont pas tellement raison que ça, étant donné leur... c'est mal intentionné, tout ça. Voilà. Nous savons très bien, comme l'a dit, il a bien fait de le dire, le grand rabbin Kaplan, probablement un des juifs les plus courageux de ce pays, il a dit « Vous êtes de mauvaise foi, nous sommes vraiment sincèrement francs. » Et c'est vrai, mais allez leur expliquer ces choses-là. Il faut être vraiment très, très civilisé pour arriver à percevoir que les deux choses sont vraies. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Bien. Et alors, voilà, ce que je dis, c'est que c'est très, très inconfortable, c'est très difficile. Je connais beaucoup de juifs de la diaspora française, qui veulent relever le défi. Et c'est encore une névrose, excusez du terme. La réaction est à peu près ceci. Ah, on nous empêche d'être du français, ben on va leur montrer qu'on peut. Et, mais pris au piège, oui, pris au piège. On subira notre destin, c'est ça, c'est à quoi ça me... à quoi ça me rappelle ? Qu'est-ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle la position des juifs maranes, voilà, pour qui la vraie fidélité juive, c'est de continuer à être marane, que le Messie vienne. Mais enfin, on continue à être marane. Le temps est venu, on peut ne plus être marane, mais les maranes, j'en connais, les maranes continuent à être marane, par vertu. On nous a fait comme ça, eh bien c'est ça la vertu, on sera marane. Et c'est ça vraiment. Vous comprenez ? Ça ressemble. Je me demande si, à quelques degrés que ce soit, tous les juifs de la diaspora ne sont pas en train de virer une cutie marine. Bien. Alors, thèse de la diaspora comme punition. Cette thèse existe, il n'y a pas de doute. Hein? Elle est une thèse orthodoxe de la tradition juive. Que la diaspora est une punition, on pourrait citer des kilomètres de versets de commentaires à ce sujet. Mais, il faut quand même y voir d'un peu plus près. D'abord, premièrement, c'est une thèse qui nous gêne, parce que vous savez ce que la théologie chrétienne en a fait. C'est une thèse assez gênante, mais il n'y a pas de doute qu'elle existe. Mais lorsqu'on y voit de plus près, et lorsqu'on relit le phénomène diaspora-exil dans le sens galoute, c'est-à-dire oppression, etc., au phénomène fonction diasporique d'Israël, que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure, hein, alors on s'aperçoit qu'il y a, au fond, une alternative, qu'Israël avait à être dispersé dans la diaspora des goïms en tant que mamlechet kohanim le goï kadosh, c'est indéniable. Que ce travail que j'essaie de vous décrire, et que vous l'avez deviné, qui vient surtout de l'enseignement des kabbalistes, parce que c'est eux qui sont préoccupés de cet aspect du problème, qu'ils s'attachaient à l'identité d'Israël, d'être en diaspora pour avoir à être Israël, ça a été déjà annoncé à Abraham avant qu'il n'y ait aucune faute telle que ce soit. C'est à Abraham qu'il a été dit, il y a do artedar qui yézalachavereshonaev. Bien sûr, le Maharal cite la Gemara, qui va chercher quand même. C'est pas possible qu'il n'y ait pas l'ombre d'une faute, de telle sorte qu'il arrive cela. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait ? Abraham n'avait rien fait, mais il n'était pas encore dans la shlemout de l'identité d'Israël. C'est plus une faute d'être, de quasi-être, plus qu'une faute d'acte. Et on ne peut pas dire que les patriarches avaient fauté. Il n'y avait même pas de Torah encore. Que les patriarches avaient fauté, et c'est pourquoi les prophéties de l'exil leur ont été données. L'alternative est la suivante. De toutes les façons, diaspora, c'est-à-dire relation à la diaspora des goyim, il devait y avoir, parce que c'était ça Israël. Mais de deux choses l'une, où Israël, et c'est comme ça que Moïse parle, bracha ou klala, c'est le même destin, vous l'aurez en bracha ou en klala. Ou bien Israël est méritant, et je crois que ça dépasse les fautes d'actes, et méritant au niveau être. Il y a un mérite d'être au-delà du mérite des actes. Alors c'est chavod ou tifaret, les shemut hilal et ener goyim, ça veut dire dans la gloire. Hein? Et ou bien Israël rebelle à sa propre vocation, pas un quelconque faux messianisme, mais rebelle à sa propre identité, à sa propre vocation, de refaire l'unité de l'identité humaine à travers la diaspora des civilisations, mais que le secret de cette unité, c'est la loi morale, et lorsque Israël est rebelle à cela, alors il l'a fait, cette diaspora, à coup de pied quelque part, si j'ose dire, pas dans la voie royale, dans l'exil, dans la galerie. La punition, la diaspora devient punition, mais elle n'est pas, a priori, décrite ainsi. Parce que sinon, lorsque nous étudions la thèse diaspora punition pour elle-même, elle est pleine d'invraisemblance. Elle est pleine d'invraisemblance. La Torah est contre une injustice pareille, que ce ne soit pas ceux qui auraient fauté, qui aient à vivre la vie de la Gola. C'est pas « Avotenu hatu ve'enam, v'alachnu salamnu ». Et c'est pas caché. La Torah dit « les enfants ne payent pas pour les fautes des pères ». C'est invraisemblable. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus que ça, si nous disons que la Gola, c'est la punition d'une génération qui a abandonné la Torah, nous sommes en pleine invraisemblance. Parce que nous n'avons de Torah que la Torah de la génération qui est partie en exil. Alors si nous avons abandonné la Torah, qu'est-ce que nous avons entre les mains? Nous n'avons d'autre Torah que la Torah de Golim, que la Torah de la Gola. Comment dire? Que la Torah de ceux qui sont partis en exil. Est-ce que c'est bien clair? Que la Torah de la génération de Churban Bet HaMikdash. J'ai beaucoup réfléchi à cet aspect de la question, il y a des analogies qui peuvent peut-être vous éclairer. Lorsqu'une génération est exilée, c'est elle qui préserve les cultures et la valeur de son temps, alors que le peuple qui n'est pas exilé se transforme. Réfléchissez au phénomène de la culture française en Louisiane ou au Canada, eh bien, ils ont gardé les valeurs de la culture du temps de leur exil, alors que les Français les ont perdues. Alors, donc, c'est un privilège pour cette génération d'avoir été les sauveurs du patrimoine. Et on dit d'eux qu'ils sont la cause de la galoute, c'est d'après le contraire. Il y a un chidouche en hébreu qui dit « Mit pene hata enu galit ».